Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, qui va vous faire entendre un certain nombre de rubriques, vous verrez, extrêmement diverses, extrêmement variées. C'est Patchwork. Alors au menu cette semaine, eh bien, vous allez entendre la chronique de Maître Marie, chronique juridique de notre avocate et amie Marie Lebert. Vous entendrez également une rubrique sur la finance, rubrique un peu décalée, vous verrez, ça s'appelle la Casa de Ebel. Vous entendrez aussi une lecture. Nous avons décidé sur Esprit Occitanie de vous lire un livre, c'est un polar, vous verrez cela. Nous avons une lectrice de choc. Et ensuite, nous finirons par notre œnologue Mariam, qui ne sera présente que la semaine prochaine. Donc, vous entendrez une rubrique qui s'appellera une semaine, un vin. Elle vous parlera également du terroir de ce même vin. Voilà, Patchwork, vous avez le menu et c'est parti.
Et à tous, ravi de vous retrouver dans le Patchwork pour cette première chronique de Maître Marie de 2020. Puisque c'est la saison, je vous adresse tous mes meilleurs vœux de santé, de sérénité, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Nouvelle année qui commence fort, car aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais vous pourrez le voir sur la page Facebook d'Esprit Occitanie, j'ai mis la veste à paillettes. D'abord parce que j'ai craqué sur celle de Philippe Valdi mardi, et ensuite parce qu'aujourd'hui j'en ai besoin de paillettes, car on va parler retraite. Retraite, paillettes, ça rime, tout ça, et il en faut un bon coup de paillettes pour essayer d'égayer le sujet. Alors, vous l'aurez vu dans les journaux, à la télé, dans les médias, les avocats sont en grève cette semaine. Quoi ? Ces nantis richissimes qui ne servent à rien osent être en grève ? C'est scandaleux ! Ça fait partie des commentaires fleuris qu'on peut lire sous les articles d'un journal très connu à Toulouse. Es-tu gréviste ? Oui ? Mais c'est n'importe quoi ! Ça fait partie des remarques qu'on a pu me faire directement dans mon réseau associativo-professionnel cette semaine. Alors je me suis dit qu'il fallait encore et encore expliquer et communiquer. Oui, je suis en grève, comme mes confrères du barreau de Toulouse, comme 100% des barreaux de France. Notre cause est juste et nous voulons qu'elle soit entendue. On va commencer par trois définitions. La grève d'abord. Depuis le 19e siècle, c'est une action collective consistant en une cessation concertée du travail par les salariés d'une entreprise, d'un secteur économique, d'une catégorie professionnelle ou par extension de toute autre personne productive, souvent à l'initiative des syndicats. Le droit de grève constitue une liberté fondamentale inscrite dans notre Constitution, grâce au préambule de la Constitution de 1946, et elle est un droit fondamental de chacun. Deuxième définition, spéciale. Qui concerne est limité à une catégorie de cas, donc opposée à général, qui est particulier ou destiné à une personne, un groupe, exemple, un régime spécial. Troisième définition, autonome, qui s'administre lui-même, qui ne dépend de personne, exemple, un régime autonome. Et vous voyez où je veux en venir, les avocats sont en grève contre la réforme des retraites pour défendre leur régime autonome. Car oui, contrairement notamment à celui de la SNCF ou d'EDF, le régime de retraite des avocats n'est pas un régime spécial, mais un régime autonome. Il ne coûte pas un centime aux contribuables. Il n'est financé que par nos cotisations, à hauteur de 14% de nos revenus aujourd'hui. Il n'est pas déficitaire, bien au contraire, il est excédentaire. Et encore et surtout, il est solidaire. 100 millions d'euros sont reversés chaque année au régime général et aux régimes spéciaux, soit environ 1356 euros par avocat. Merci, elle vous en prie. Alors, un peu d'histoire sur notre caisse de retraite. L'histoire de la Caisse nationale des barreaux français est liée à celle du droit de plaidoirie. Inspiré par les ordonnances royales de la fin du XVIIe siècle, le droit de plaidoirie fut conçu comme la contrepartie du service public, permanent et gratuit, rendu par le barreau français sous forme de rémunération des anciens procureurs et avoués. Les premières caisses de retraite et de prévoyance pour les avocats sont nées de la loi du 31 décembre 1921, marquant l'évolution majeure du système de protection de la profession. Placé sous le contrôle des ordres, le droit de plaidoirie sera dans un premier temps destiné à financer allocations et secours des avocats. Les caisses de prévoyance vont fonctionner de manière autonome, Toutefois, seuls les plus grands barreaux seront en capacité d'assurer des pensions substantielles. La création de la CNBF en 1948, en tant que section professionnelle de la CNAVPL, puis sa transformation en organisme autonome en 1954, permettront d'assurer une égalité de droit à l'assurance vieillesse pour l'ensemble des avocats, et ce, quel que soit le barreau auquel ils sont inscrits. Car oui, en 1941, les avocats, comme les médecins d'ailleurs, se sont vus éjectés du régime général. Partez, débrouillez-vous, on ne veut plus de vous. Et donc, les avocats se sont organisés pour gérer les cotisations et le versement des pensions. Et force est de constater que ça a été plutôt bien géré, parce qu'aujourd'hui, les réserves de la CNBF représentent plus de 2 milliards d'euros, et ces réserves permettent d'assurer le versement des pensions de retraite à chaque avocat sur les 50 prochaines années à venir. Ça, c'est sûr que le gouvernement peut pas en dire autant de la gestion de son régime général. Pour autant, est-ce que ça justifie la confiscation des réserves et l'absorption de force des avocats dans le régime général ? On va être très trivial, hein, mais vous, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on vienne vous piquer votre assurance vie ou votre plan épargne ? Ah bah non ! Bah voilà, ah bah non, on est d'accord. Ces fonds que représentent les réserves ne sont pas des fonds publics. Si le gouvernement en envisageait la confiscation, eh bien la question de leur propriété est réelle et devrait être soumise au Conseil constitutionnel, puisque si vous avez écouté les précédentes chroniques de Maître Marie, eh bien vous le savez, je vous l'ai dit, le droit de propriété fait partie des droits fondamentaux et constitutionnellement garantis. Alors on nous dit, là-haut, dans les hautes sphères du gouvernement, on vous les confisquera pas, mais ça servira à indemniser les difficultés des confrères, et puis on verra pour vous baisser les charges sociales pour compenser. Ben oui, t'as raison. À ceci près que l'absorption dans le régime général, elle, par le biais de la loi, ne pourrait pas être remise en cause, alors que retirer une mesure financière comme une baisse de charges, ben, c'est très facile. Donc autrement dit, pour l'instant, on ne dit rien de vraiment tangible aux avocats et on leur demande de signer un document en blanc, en partant du principe que d'abord ils acceptent leur absorption dans le régime général et puis après on verra si on peut discuter et des modalités. Comme le dit Olivier Cousy, bâtonnier de Paris, ce n'est pas ce que nous conseillons à nos clients de signer un document en blanc, donc nous ne pouvons pas le faire pour nous-mêmes. Alors en pratique, elle représente quoi pour les avocats cette réforme ? Bah la saignée, tout simplement, hein, on va être clair. Les cotisations passeraient de 14% à 28% sur la base du revenu médian des avocats de 40 000 euros par an, soit de 3 000 à 7 000 euros. Et à l'inverse, eh bien on aurait une diminution de la pension de retraite qui est aujourd'hui fixée à 1 416 euros par mois et qui baisserait à 1 000 euros. Alors vous allez me dire, non mais attends, 40 000 euros à l'année de revenu médian, ça va ? Bah non, ça va pas, car ça c'est du brut les copains. Et oui, sur tout cela, après les charges vont s'imputer, dont ces fameux nouveaux 28% qu'on nous prévoit. Et donc, bah vous imaginez, hein, 40 000, vous enlevez 28, et puis après vous payez encore toutes les charges, et puis après potentiellement vous pensez à manger à la fin du mois. Ce doublement de cotisation aura une conséquence économique et sociale directe, ce serait la fermeture de nombreux petits cabinets. Car s'il y a bien un métier dont les formes d'activité sont diverses et variées, c'est celui d'avocat. Alors oui, vous avez les ténors, les gros cabinets, parisiens, parfois anglo-saxons. Mais tous les avocats, y compris à Paris, n'ont pas un mode de vie et d'exercice qui ressemble à la série Suits. Alors, très bonne série sur Netflix au demeurant, hein, que j'ai adoré, mais loin de notre réalité d'exercice. Nombreux exercent en structure individuelle, parfois totalement seuls ou avec un collaborateur ou une secrétaire. Et alors, eux, si vous leur collez 28%, c'est fini, basta, walou, licenciement de la secrétaire, fermeture du cabinet. Et s'ils ferment le cabinet, c'est sans filet, car les indépendants, et notamment les avocats, n'ont pas les garanties et la protection des salariés. Pôle emploi, connaît pas, a pas le droit. Et vous pourriez me dire, et alors ? Et alors, qu'est-ce que ça peut bien me faire à moi si l'avocat y ferme son cabinet ? Bah déjà, ça peut vous faire que cet alourdissement des charges, qui peut générer au départ une augmentation des honoraires pour tenter de faire face, bah elle va vous toucher vous de plein fouet, parce que c'est vous qui les payez les honoraires quand vous venez voir l'avocat. Ça peut aussi vous faire que si ça génère la fermeture des petites structures et petits cabinets, ça va contribuer à une désertification de nos campagnes du droit et donc à une limitation de l'accès au droit. Est-ce que vous ferez 50 ou 70 kilomètres pour aller voir un avocat et faire défendre vos droits lorsque vous savez que ceux-ci sont bafoués ? Est-ce que vous en aurez la possibilité ? Je repense ici aux commentaires peu amènes de ce monsieur sur Internet, toujours sur le site de ce journal extrêmement connu à Toulouse, disant qu'en gros, les avocats étaient des parasites dont on ne peut malheureusement pas se passer quand c'est obligatoire, bien qu'ils ne servent à rien et qui vivent grassement sur le malheur des gens. Alors, deux réponses à ce charmant monsieur. La première, c'est que je l'invite à prendre connaissance, notamment hein, des récentes réformes, parce qu'en ce moment, on s'en mange quand même de la réforme quand on est avocat. Les récentes réformes, notamment celles de la procédure civile, avec toutes ses subtilités, et notamment l'exécution provisoire de droit de toutes les décisions de première instance, avec les conséquences que ça amène. Et je ne saurais trop que lui conseiller, s'il doit être confronté à la justice très prochainement, d'être assisté et d'avoir un conseil avisé sur des questions aussi sensibles. La deuxième réponse, c'est que les avocats remplissent déjà de nombreuses missions de solidarité et de service public, notamment par le biais de l'aide juridictionnelle, qui assure aux plus démunis ou à ceux dont les revenus sont trop faibles la possibilité d'être assistés et défendus en justice par un avocat qui sera payé par l'État, si on fait simple. Mais dans ces cas-là, attention, l'avocat n'envoie pas sa facture à la chancellerie ou à Bercy, bonjour aux fins de paiement. Ah non, non, c'est l'État qui, par le biais de grilles, de barèmes et d'UV, décide de ce qu'il verse à l'avocat pour sa mission. Et dans ce cadre, je vous le demande tout net, est-ce que vous seriez prêt à faire le même travail, fournir la même implication, prendre les mêmes responsabilités, faire les mêmes efforts pour être payé environ 30% de ce que vous gagnez d'habitude, soit 70% de moins, au nom de la solidarité, parce que la réalité de la GIS, c'est ça. C'est faire le même boulot, avoir la même responsabilité professionnelle en étant payé 30% de ce qu'on pourrait être payé d'habitude sur un dossier. Les avocats, eux, le font. Et les plus jeunes, les plus petits, qui seront de plein fouet impactés par cette réforme encore plus. Tous les jours, chaque jour, revenant à leur définition première, advocatus, celui qui se lève, celui qui parle pour l'autre, en un mot, celui qui défend. Et c'est donc contre notre ADN même qu'aujourd'hui nous demandons systématiquement des renvois, faisant la grève des audiences, y compris celle du contentieux des libertés, garde à vue, comparution immédiate, désignation au titre de l'aide juridictionnelle, tellement chère à nos cœurs et convictions d'avocats, mais qui sont, semble-t-il, le seul moyen d'être entendus. Madame Belloubet, ministre de la Justice, sur cette grève, a indiqué « Les avocats ont une capacité de blocage de tout notre système judiciaire. C'est dommage, car il y a des justiciables qui sont ici en cause et ils méritent d'être défendus. » Elle a même demandé que chacun retourne à ses occupations. Fin de la récré, la maîtresse a sifflé, c'est fini, on s'en va. Défendus, ils le seront, madame la ministre. Car nous, défendre, nous savons ce que cela veut dire. Mais ce blocage est de votre fait, car si défendre fait manifestement défaut à votre vocabulaire, entendre n'en fait pas davantage partie. Alors comme l'a dit maître Xavier Autain sur différentes antennes de médias, de radio, de télé, foutez-nous la paix. Laissez-nous notre régime autonome qui ne coûte rien à personne et est solidaire de tous et des autres. Alors vous aviez une chronique, un petit peu en coup de gueule aujourd'hui, de Marie Lebert, avocate en grève, avocate solidaire de ses confrères et croyez-le bien, solidaire de vous tous. Si vous avez pris la chronique en cours de route, retrouvez-nous en rediffusion ce soir à 23h pour les Noctambules et aussi mercredi matin à 10h et bien sûr dans notre bibliothèque de podcast sur www.espritoccitanie.fr. On se retrouve très vite sur Esprit Occitanie, la radio, pour un sujet, je l'espère, moins grave. Et je vous laisse tout de suite en compagnie d'Éric Hébel, notre économiste de choc.
Bonjour et bienvenue dans la Casa de Hébel. Pour cette première émission de l'année, je vous souhaite une excellente année 2020. Qu'elle soit synonyme de partage, de bonheur, d'amour et de santé. La question que l'on peut se poser en début d'année 2020 est la même que celle que l'on s'est posée en début d'année 2019, ainsi qu'en 2018, en 2017, et etc., 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 depuis que les magazines financiers ont eu cette idée de marronnier qui arrive tous les ans en début d'année. Où placer son argent en 2020? Les actions? Pourquoi pas. Les obligations? Ouais, les taux sont bas, c'est pas extraordinaire. L'assurance vie? Bof. Les livres? Pourquoi pas. Les terres rares, pourquoi pas. Prenons par exemple un article que je lisais ce matin dans Les Échos. Alors il n'est peut-être pas de ce matin, mais il n'est pas très très vieux. Et je regardais, la première page était de dire que les actions, très intéressantes. Mais alors, si les actions sont très intéressantes, lesquelles? Parce que les actions, vous avez à peu près de tout. Hein. Vous pouvez faire de l'Europe grande capitalisation, de l'Amérique, grande capitalisation, vous pouvez partir sur des capitalisations moyennes, donc des entreprises de taille un petit peu plus petite ou très petite, en Asie, en Australie, bon, actuellement c'est peut-être un petit peu chaud, mais le panel est tellement important que donc Les Échos prend trois grands gérants de fonds en Europe, la BFT qui vous dit, ah, c'est très important, investissez sur les actions européennes parce qu'elles vont faire à peu près 1% de plus que les actions américaines. Chapeau l'artiste. Ça c'est Generali. La BFT nous dit non. Alors, l'Europe, oui, parce que l'économie sera, la croissance sera plus importante qu'aux États-Unis. Ça fait quand même un certain nombre d'années que ce n'est pas le cas, mais on sait jamais, un jour ça arrivera. Et puis surtout, la solidité du bilan des entreprises est beaucoup plus forte en Europe qu'aux États-Unis. Donc, ça veut dire que les résultats seront meilleurs, ça veut dire que les performances économiques seront meilleures, ça veut dire que les résultats, le cours de bourse va monter. Bref, investissez sur l'Europe. Donc, Europe 2, États-Unis 0. Mais en face, vous avez une banque suisse, UBS, c'est quand même un mastodonte qui vous dit « Ah non, le S&P, donc l'indice américain, le S&P 500, plutôt que le Stoxx 50. » Alors, statistiquement, sur les 50 dernières années, je pense que UBS a raison. Après, les statistiques, vous savez, la courbe de Gauss, il y a quand même des moments où on est très à gauche, et puis des moments où on est très à droite. Donc, il est possible que l'Europe fasse mieux, mais il est aussi possible que les États-Unis fassent mieux. Donc, grosso modo, vous avez autant de chances d'avoir raison qu'eux en faisant un pile ou face. C'est pas négatif de ma part, je ne suis pas taquin, je peux juste dire que c'est un peu comme au BHV, on trouve de tout dans les prévisions. Alors je ne remets certainement pas en cause le travail de l'ensemble des stratégistes, économistes et autres analystes, qu'ils soient crédits, donc analystes crédits travaillent sur les obligations, les émetteurs obligataires, ou analystes financiers, ils travaillent sur les émetteurs d'actions. Mais faire des prévisions à court terme, parce qu'un an sur les actions, c'est vraiment à court terme. Sur des actifs pour lesquels il est conseillé d'avoir une détention longue, et ça, je me réfère à la norme de notre autorité de tutelle. Quand je dis notre, c'est que je me considère encore comme étant financier. L'AMF, le barème étant de 1 à 7, et 7 étant quasiment des actions. Donc, ça veut dire que plus le barème est important, plus la durée de détention doit être longue. Donc, dire sur l'année, tel indice fera mieux que ou fera 17% ou 18%, c'est parce que personne ne regardera en fin d'année ce qui a été dit en début d'année pour dire aux personnes que être aussi précis sur quelque chose qui est totalement improbabilisable, c'est culotté. De même, certains magazines ont un ton légèrement péremptoire. Alors, je ne sais plus quel était le magazine, est-ce que c'est Le Revenu Français ou un autre, qui expliquait qu'il était absolument nécessaire, vital, obligatoire, presque, de ne pas aller sur l'assurance vie. Ah ouais, alors ça, je trouve ça légèrement péremptoire, parce que pour eux, l'assurance vie, c'est juste un outil fiscal. Ou alors, il faut y aller, mais pas longtemps. Mais je ne sais même pas pourquoi, je n'ai même pas été jusqu'à la fin de l'article, parce que je trouve ça complètement dommage, pour pas dire ridicule. Parce que avant de se dire, mais sur quoi je vais placer, il y a peut-être un truc à savoir. Et qui je suis, combien j'ai, combien je peux mettre de côté, combien j'ai déjà de côté, quand est-ce que j'aurai besoin de mon argent, est-ce que potentiellement, et rebondissons sur la rubrique de Maître Lebert, dois-je préparer ma retraite? Et si c'est le cas, il y a peut-être des petites choses à faire avant d'acheter des actions, d'aller sur l'assurance vie ou autre. Il peut y avoir un peu d'immobilier à faire si vous n'avez pas un bien immobilier. C'est quand même le pilier principal d'une retraite, c'est d'avoir un bien immobilier pour sa retraite. L'exemple est tout simple. Vous avez un loyer qui représente aujourd'hui 20-25% de votre revenu, sachant qu'à la retraite, vous allez avoir un revenu divisé par deux. Bah, imaginez que votre loyer demain représente 50% de votre revenu. Ça peut faire un petit peu plus compliqué pour finir les fins de mois. Donc, le plus important avant de savoir où placer son argent, et donc là, je suis en train de dézinguer ma chronique, c'est juste de savoir qui je suis. Alors, qui je suis, moi, mon couple, mes enfants, ma famille, on n'est pas en train de faire une introspection psychologique. C'est juste que, avant tout investissement, le plus important est de connaître ses objectifs. Est-ce que c'est de tout claquer parce que je suis rentier? Bon, ça, tant mieux pour eux. Mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Mais ils sont très, très riches. Et je pense qu'il y en a qui claquent à peu près n'importe quoi sur n'importe, enfin, tout le temps. Mais bon. N'étant pas rentier, et je pense que la plupart des auditeurs ne sont pas rentiers, sinon, appelez-moi, je pourrais vous donner des conseils. Le deuxième point très important à connaître, c'est son niveau d'appétence pour le risque. Waouh. Alors là, il a employé un terme. Il se la pète, le petit bonhomme. Oui, un petit peu. Le niveau d'appétence pour le risque, c'est est-ce que vous êtes prêt à prendre du risque ou pas? Alors, tout le monde va dire, oui, je prends du risque parce que les actions montent. Il n'y a pas de problème. Non, mais sachez que le risque, c'est à la hausse, mais c'est aussi à la baisse. C'est-à-dire que les actions ont fait 20 et quelques pourcents on va dire, pour un indice européen, 20 et quelques pourcents l'an dernier, mais l'année d'avant, ils ont fait moins 20 et quelques pourcents. Donc, sur deux ans, vous perdez de l'argent. Parce que si vous perdez 20% et que vous regagnez 20%, à la fin, vous en avez quand même perdu 4. Voilà, ça, c'est des mathématiques assez basiques. Faut pas écouter tout ce qui est dit. Il faut juste faire de temps en temps le calcul et vous verrez que beaucoup de choses ne sont pas tout à fait réelles. Le troisième point très, très important, c'est son goût pour la liquidité. Alors, est-ce que vous avez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, est-ce que vous avez besoin de votre argent rapidement, pas rapidement ou pas du tout? Sachant que si vous partez dans l'immobilier, la liquidité est très faible. Si vous partez sur des actions, la liquidité est rapide. Le seul souci sur des titres financiers, c'est que au moment où vous voulez vendre, il est pas obligatoirement sûr que le titre sera au niveau que vous espériez au moment où vous l'avez acheté. Et donc, vous serez peut-être obligé soit d'attendre, soit si vous décidez de vendre, c'est d'avoir un peu moins que ce que vous auriez espéré avoir. La phrase est peut-être un petit peu longue, mais réécoutez-la, vous verrez, c'est la bonne, c'est une définition de la liquidité. Autre point qui peut être intéressant de regarder, c'est le miroir aux alouettes. Alors, le miroir aux alouettes, c'est quoi? Ce sont des personnes qui vous parlent dans magazines, des professionnels, des mails que vous recevez, de produits extraordinaires qui vont vous permettre de gagner énormément d'argent. Bon, le dernier en date qui a fait un petit peu les choux gras de quelques taquins envers les financiers s'appelle, alors je vais pas la citer, mais elle vend des livres. Voilà, c'est une société qui vendait des livres. La technique est assez simple. Alors c'est pas une Ponzi, une pyramide de Ponzi, c'est autre chose. C'est un petit marché de quelques personnes qui se vendent des livres entre eux. Voilà, donc on a monsieur, ex-ministre, premier ministre de la France, qui vend sa collection de livres à un prix légèrement surestimé. Alors, je suis pas un spécialiste, mais j'ai écouté certains spécialistes qui expliquaient qu'il était un peu surestimé, mais il y avait quand même de la qualité. Et puis, vous vous vendez entre vous des livres pendant quelques années, vous générez ainsi un prix fictif à la fin par rapport au prix réel, mais il n'y a pas vraiment de prix réel, c'est en fonction de ce que l'acheteur est prêt à payer. Vous obtenez un prix in fine qui vous permet de dire que sur les 7 dernières années, si on prend le prix de départ de la totalité des livres et le prix final, vous avez une rentabilité de 7%. C'est génial. Et à ce moment-là, on vient vous voir particulier avec votre économie et on vous dit, bah voilà, monsieur, madame Michu, voilà, on va dire madame Michu ou monsieur, madame Michu, j'ai quelque chose à vous proposer qui est juste génialissime, ce sont les livres. Regardez, sur les 10 dernières années, ça fait 7% par an. Alors là, attention. Attention, je vous l'ai déjà dit dans une autre chronique. Quand on gagne beaucoup d'argent sans prendre véritablement de risque, ça s'appelle Madoff. Madoff, il faisait 10. Hein. Là, 7, ils sont quand même petits joueurs. Mais ça permet de pas effrayer non plus le potentiel souscripteur. La rentabilité à 7%, c'est du vent. Et le deuxième truc, trouvez-moi la liquidité pour un livre. C'est-à-dire que vous avez acheté un livre. J'ai un de mes anciens clients qui a acheté. Alors, comme il me dit, je me suis fait fourguer quelques bouquins sur... des superbes tables de dessins, de photos, de plantes, à très anciens, très beaux. Le souci, c'est que j'ai dû payer 15 000 euros et aujourd'hui, on me l'estime à 300. Donc voilà, j'appellerai pas ça une arnaque, mais juste attention, attention à ce qu'on vous propose. Autre sujet très intéressant, on peut vous parler de terres rares, on peut vous parler de plein de choses, les produits structurés également que vos amis banquiers, enfin, quand je dis vos amis, que vos conseillers banquiers, et autres peuvent vous proposer. Produits structurés, dans la plupart des cas, l'entreprise qui gagne le plus. C'est pas compliqué, c'est la banque qui les met. Parce qu'elle fait énormément de métiers dans un produit structuré, elle les met, elle le garantit, elle le structure, elle le vend. À qui? À vous. Donc avant que vous commenciez à gagner, il y en a quand même 4 derrière qui ont besoin de vivre. Et mécaniquement, ils vivent quand même plutôt pas trop mal, même si c'est un secteur qui est un petit peu en crise. Mais attention. Attention et essayez de vous faire conseiller par des personnes en qui vous avez confiance et qui vous feront pas miroiter la lune ou des performances extraordinaires. Pour reprendre encore une petite remarque de ma consoeur, Maître Lebert, c'est pas parce que la veste brille ou que la tenue du conseiller que vous avez en face de vous fait croire qu'il a réussi parce que il a suivi ses conseils. Les gens qui font fortune dans la finance n'existent pas ou sont très très rares et surtout ils ne le disent pas. Donc, il faut savoir raison garder. Et pour finir sur une note un tout petit peu plus positive, si vous ne faites pas de conneries, il est possible que vous gagniez un petit peu d'argent, mais n'espérez pas faire fortune. C'était la Casa de Ebel. À la réalisation, Hugo Pépitone. Vous pourrez retrouver cette chronique en podcast sur le site de la radio www.espritoccitanie.fr. N'hésitez pas à commenter cette chronique. À bientôt pour un nouveau patchwork.
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique La Lectrice d'Occitanie. Je vous souhaite en premier lieu une très bonne année et pour bien la débuter, je vais vous lire un nouveau chapitre du roman Superman ne volera plus de Gilbert Noguès aux éditions Kern et le chapitre s'intitule Madame la Misère.
Madame la Misère, écoutez le vacarme que font vos gens, le dos voûté, la langue au bas. Quand ils sont assoiffés, ils se saoulent de larmes. Quand ils ne pleurent pas, ils crèvent sous le charme de la nature et des gravats.
J'ai cru, en le voyant pour la première fois, que Louis la Brocante était de sortie. L'embonpoint provoqué par une nature compréhensive et par une alimentation généreuse. La démarche hasardeuse, le dos voûté, la petite moustache grisonnante et bien fournie, le sourire permanent avec un mégot, souvent éteint, pendouillant à ses lèvres. On sent que l'homme pousse le mimétisme jusqu'à l'extrême. Comme son illustre sosie, l'homme est un peu tout, ferrailleur, récupérateur, chineur, bricoleur et réparateur de génie. Nous sommes arrivés avec l'équipage au complet. Consuelo au guidon du triporteur, Spartacus au GPS et moi sur le porte-bagages, peinant à enlacer totalement la conductrice et me contentant de m'accrocher à quelques bourrelets pas si superflus que ça. Norbert habite le quartier des Sept Deniers, pas loin du terrain du même nom, où le stade toulousain a construit sa légende virile mais correcte, dans la rue Jean Guéral. Je ne vous donne pas le numéro, car le bonhomme aime la discrétion. On pénètre dans cet antre par un portail métallique avec deux vantaux peints, l'un en rouge, l'autre en noir. Tout de suite, je me dis que Norbert s'affiche ici en supporter inconditionnel de l'équipe que Guinovès a conduite au plus haut sommet avant de prendre la porte. La porte, on ne peut pas faire ça à Guinovès, de l'équipe de France. Une allée de Troène mène jusqu'à la petite Toulousaine. Sur la droite, jouxtant un potager où quelques tomates en ont fini de trop mûrir et où des choux de Bruxelles attendent d'être cueillis, une caravane dépecée de ses roues et reposant sur plusieurs amoncellements de parpaings. Plus loin, un hangar de briques aussi, et de broc, normal pour un brocanteur, avec son appentis, abrite le camion de notre Norbert la Brocante. Là, vous attendez la description du fourgon. Vous vous imaginez tout de suite un vieux Citroën. Erreur. Le véhicule est vieux, je vous l'accorde, mais il n'a rien de commun avec l'antique tube de notre brocanteur télévisuesque. De plus, pour marquer sa différence, il est, comme le portail, en rouge et noir. Là, je me dis que ça a peut-être un rapport avec la chanson de Jeanne Mas, mais j'ai tout de même un léger doute. Je referme le portail pour éviter qu'une petite chienne au poil long et traînant ne s'échappe. Spartacus a exigé par un aboiement caractéristique de son engeance qu'on le dépose à même le sol et déjà, Il renifle le fondement de la cabote, impatient d'honorer le dargeau de la belle. Ça alors, madame la misère, qu'est-ce qui t'amène ? Je vois que le triporteur que je t'ai renforcé tient toujours le coup et que c'est devenu un moyen de transport en commun. Tu t'imagines pas ? Arrête de dire des conneries, le tché, et viens saluer. J'apparais enfin aux yeux du brocanteur quand Consuelo daigne déplacer son encombrante carcasse. Putain, Jojo ! Décidément, je n'en ai pas fini d'être pris pour mon frère. Mais je ne montre pas mon désarroi au bonhomme. Eh non, le tché, c'est pas le Jojo. C'est juste son putain de frangin. Et le putain de frangin, il s'appelle Gustave. Mais vous pouvez m'appeler Gus. Le brocanteur ne m'a pas quitté des yeux et il me tend une main calleuse. Ça, je le sais quand il serre la mienne. Salut, camarade. Mézig, c'est Norbert. Norbert Cherefos. Appellation peu commune, me direz-vous. Mais on m'appelle le Tché. Alors c'est vous, enfin toi, vous voyez, je m'habitue vite au tutoiement, le maître des lieux. Ah ah, Gus, ici il n'y a ni dieu, ni maître, me précise le Tché. Ni maître d'ingère non plus, rajoute Consuelo, en posant un bras lourdeau sur les épaules de Norbert. Le Tché, il est du genre pavé au fond de la piscine. Voilà, nous avons fait connaissance avec le Tché. Spartacus a retrouvé une vieille copine et peine, pas facile avec un patin, à accomplir sa besogne. Autour d'un café, Consuelo explique les raisons de notre venue. La chute d'un corps, la rencontre chez ta mère, le transport de nuit chez elle. Elle fait l'impasse sur mon nettoyage et la nuit dans le même lit. La récupération de Superman au jardin compense Caffarelli. Et il schlingue pas un peu votre bonhomme ? C'est un peu pour ça qu'on est venu te voir, le Tché. Pour l'instant, on a foutu le corps dans mon frigo. Dans le Ouais, dans mon putain de frigo. Mais j'ai dû sortir les yaourts et deux tranches de jambon pour l'y faire rentrer. Oh putain, putain, putain. Je me dis que tout le monde dit putain dans cette putain d'histoire. Donc, comme tu vois, le Tché, on a besoin de tes services. Par hasard, t'aurais pas... un congélo, un putain de congélo même. Vous voyez, j'y arrive moi aussi quand je veux m'appliquer. Le regard que me jette Consuelo en dit long sur ce qu'elle pense et sur l'aspect peu crédible de ma réplique. Le Tché, quant à lui, se gratte la tête, reprend un peu de café et d'un air dépité m'affirme. J'ai pas ça en stock pour le moment, mais je sais où on peut en trouver un. Voilà, chers auditeurs, je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous retrouver en podcast sur www.espritoccitanie.fr ou sur l'application du même nom pour smartphone. À bientôt!
Voilà, c'était Patchwork sur Esprit Occitanie, l'émission où vous avez pu entendre différentes rubriques et je vous l'ai dit en introduction, la semaine prochaine en plus on vous parlera d'un vin et de son terroir. Merci à Hugo Pupitone qui a monté cette émission et à très bientôt pour de nouvelles rubriques sur Esprit Occitanie.